Chers frères et sœurs, bonjour. Aujourd'hui, nous avons une fois de plus une opportunité de pouvoir parler de notre Dieu. Et comme nous l'avons entendu ce matin, avec le thème de ce dimanche qui est l'espérance, notre prière est que par la foi que nous avons en notre Dieu, qui nous donne véritablement cette espérance, que nous l'ayons véritablement, afin qu'un jour nous soyons ensemble avec notre Dieu pour vivre cette joie et cette paix qu'il nous donnera dans le dernier jour. Pour cela, aujourd'hui, nous allons essayer de parler de ce que notre Dieu. Nous savons, et nous l'avons toujours entendu, notre Dieu, est un Dieu saint. La Bible nous dit à maintes reprises que Dieu est saint. Et qu'est-ce que cela signifie? D'autre part, Dieu nous demande, que ce soit dans l'Ancien Testament comme dans le Nouveau Testament, il nous demande d'être saints parce que lui, il est saint. Alors, si aujourd'hui, nous n'arrivons pas à comprendre ce que signifie pour Dieu être saint, je pense que nous ne sommes pas en mesure de comprendre un objectif important pour notre vie chrétienne. Pour cela, aujourd'hui, nous allons essayer de parcourir la Bible, voyant quelques versets qui vont nous parler de la sainteté de Dieu et de la manière dont nous pouvons nous comporter pour que nous puissions véritablement cheminer dans cette voie de la sanctification. Pour cela, nous allons ouvrir nos Bibles. Nous avons deux lectures à faire. La première lecture, nous la ferons dans le livre d'Ésaïe, au chapitre 6. Ésaïe, chapitre 6, au verset 1 à 7. Et la deuxième qui va suivre, nous allons la prendre dans le livre d'Éphésiens, au chapitre 5, du verset 1 à 14 et verset 25 à 27. Nous commençons par la première lecture. Je disais Ésaïe au chapitre 6, du verset 1 à 7. Je lis. L'année de la mort du roi Ozias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé et les pans de sa robe remplissaient le temple. Des séraphins s'étaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun six ailes. Deux dont ils se couvraient la face, deux dont ils se couvraient le pied et deux dont ils se servaient pour voler. Ils criaient l'un à l'autre et disait « Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. » Et les portes furent ébranlées dans leurs fondements par la voix qui retentissait. Et la maison se remplit de fumée. Alors, je dis « Malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures. Et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. » Mais l'un de séraphins vola vers moi, tenant à la main une pierre ardente qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Il en toucha ma bouche et dit « Ceci a touché tes lèvres, ton iniquité est enlevée et ton péché est expié. Nous allons faire la deuxième lecture dans Éphésiens, au chapitre 5, du verset 1 à 14 et 25 à 27, toujours dans Éphésiens. Je lis Éphésiens 5, du verset 1 à 14. Devenez donc les imitateurs de Dieu comme les enfants bien-aimés et marchez dans l'amour à l'exemple de Christ qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Que la débauche, ni aucune impureté, ni la pudicité ne soit pas même nommée parmi vous, ainsi qu'il convient à des saints. Qu'on n'entende ni paroles grossières, ni propos insensés ou équivoques, choses qui sont contraires à la bienséance. Qu'on entende plutôt de vous des actions de grâce, car sachez-le, aucun débauché ou impur ou cupide, c'est-à-dire idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. Que personne ne vous séduise par de vains discours, car c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. N'ayez donc aucune part avec eux. Autrefois, vous étiez ténèbres, et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme les enfants des lumières, car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice, de vérité. Examinez ce qui est agréable au Seigneur et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-le. Car il est honteux de dire ce qu'ils font en secret. Mais tout ce qui est réprouvé apparaît en pleine lumière, car tout ce qui est aussi manifesté est lumière. C'est pour cela qu'il est dit, « Réveille-toi, toi qui dors, réveille-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera. » Et je saute au verset 25. Il est dit, « Marie, que chacun aime sa femme, comme Christ a aimé l'Église, et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier, en la purifiant et en la lavant par l'eau de la parole, pour la faire paraître devant lui, cette église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. » Bien-aimés, la Bible nous parle de la sainteté de Dieu. La sainteté de Dieu est un domaine qui dépasse l'homme naturel que nous sommes, vous et moi. Car elle est par essence divine. Cette sainteté n'est pas une chose. Elle est plutôt Dieu opposé au moi, c'est-à-dire Dieu opposé à la chair. Je dirais même, pour bien comprendre, la sainteté, c'est Dieu opposé à la volonté de l'homme. La sainteté, comme je le disais dès le départ, c'est le but suprême de toute vie chrétienne. Car, vous le savez comme moi, nous adorons un Dieu puissant, nous adorons un Dieu saint et éternel. C'est pour cela d'ailleurs que nous avons été sauvés et que le prix a été payé. Exode 15, verset 11 nous dit, « La sainteté ne peut se concevoir sans Dieu. Il ne peut y avoir des personnes ou des places déclarées saintes sans la présence du Dieu créateur, révélé à travers son Fils unique, Jésus-Christ. » De nos jours, on appelle saint ce qui en réalité ne l'est pas. Dieu n'est pas dans les idoles, bien-aimés. Dieu n'est pas dans les statues. Dieu n'est pas non plus dans le lieu où l'on l'adore, selon les lois humaines. Dieu n'est pas dans le lieu où l'on l'adore selon le principe humain. Notre Dieu règne sur son trône de gloire. Mais qu'est-ce donc la sainteté? À travers toute la Bible, Dieu est révélé comme un Dieu saint par nature et par excellence. Cette sainteté désigne ce qui est souverainement élevé, désigne ce qui est parfait, ce qui est essentiellement pur et conforme à la loi divine. Étymologiquement d'ailleurs, le terme sainteté signifie mise à part. La mise à part sous-entend la séparation. Elle sous-entend aussi la consécration. Cela renvoie donc à la séparation d'avec le péché, à la séparation d'avec le mal, à la séparation d'avec le monde et tout ce qui est impur et souillé. C'est pour cela d'ailleurs qu'il est écrit dans 1 Jean au chapitre 1, verset 5, je lis, la nouvelle que nous avons apprise de lui et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière. Dans ce verset, la lumière est synonyme de ce qui est droit, synonyme de ce qui est pur, une pureté parfaite et glorieuse. Et dans la Bible, chaque fois qu'on parle de lumière, on compare la lumière à la vérité. On la compare à la justice, à la droiture, au bien, bref, à la gloire. Et le concept de sainteté englobe toutes ces valeurs que je viens de citer. À l'opposé de la sainteté, on retrouve ce qui est profane, ce qui est commun, vulgaire, ce qui est souillé, je dirais même dans l'absolu, ce qui est impur et sale. Sachons-le, bien-aimés, dans le Seigneur. Ce ne sont pas nos attitudes ou notre manière de nous tenir devant les hommes ou notre manière de parler ou de marcher, pas non plus les accessoires que nous pouvons porter, comme on le voit dans certaines églises, qui peuvent faire de nous des individus saints. Non. C'est plutôt la transformation intérieure de l'homme au travers du sacrifice de Golgotha qui mène à la sainteté. Et comme d'ailleurs le dit dans la dernière partie de 1 Corinthiens au chapitre 6, verset 11, « Mais vous avez été lavés, vous avez été sanctifiés, vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Père. » Et 1 Pierre, au chapitre 1, verset 14 à 16, de renchérir en disant, « Comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois quand vous étiez dans l'ignorance. Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. » Bien-aimés, cette sainteté qui nous est rendue accessible aujourd'hui à travers la croix de notre Seigneur Jésus, Dieu la met encore à notre portée. Nous qui sommes bien évidemment des pécheurs. Voilà pourquoi il nous demande d'être des hommes et des femmes de bien. Qu'est-ce alors le bien ? Le bien n'est pas une chose. Le bien est un ordre. Le bien est un commandement. Le bien est une marche à suivre, déterminant les rapports des êtres intelligents et ayant la pleine liberté de choix et de conscience du bonheur des individus selon la volonté de Dieu. Et le mal, comme le psaume 73, verset 22, le dit, le mal est la voie de l'homme stupide. La sainteté, bien-aimée, implique le fait d'être soi-même la propriété de Dieu. En effet, en dehors de Dieu, la sainteté est impossible pour l'homme. Seuls ceux qui sont soumis à sa volonté peuvent l'atteindre. La volonté de Dieu n'est pas un mystère inaccessible. On peut la connaître en devenant l'intime de Dieu, c'est-à-dire en le recherchant véritablement. Pour cela, on nous le dit chaque jour, la lecture assidue de sa parole, la vie des prières régulières, la fidélité dans ses engagements, tout cela peut nous y conduire. La repentance sincère conduit à la nouvelle naissance, qui est une vie intérieure donnée par Dieu et demeure le seul passage conduisant à la sainteté. Nous le savons, Dieu ne pouvant rien posséder de sale ou de souillé, moralement ou spirituellement, nous sommes appelés à nous repentir pour devenir sa propriété et commencer la marche de la sanctification. Ainsi, la sanctification de l'homme réside dans la réalisation de sa vocation véritable, qui est celle d'être saint. Nous l'avons lu dans le texte d'Éphésiens, et je vais le reprendre. Voici ce qui nous est dit au chapitre 5, de verset 3 à 5, que l'impudicité, qu'aucune espèce d'impureté et que la cupidité ne soient pas nommées parmi vous, ainsi qu'il convient à des saints, parce qu'on demande d'être saints. Qu'on n'entende ni paroles déshonnêtes, ni propos insensés, ni plaisanteries, choses qui sont contraires à la bienséance. La bienséance, bien évidemment, étant une conduite sociale en accord avec les usages dans la société. Mais simplement, qu'on entende de vous des actions de grâce. Chers frères et sœurs, la sanctification est un chemin qui mène à la perfection. Et la perfection, c'est la sainteté. Alors, est-ce que nous pouvons nous poser cette question en nous disant, sommes-nous sur ce chemin-là? Si tel n'est pas le cas, il faudra nous soumettre à sa volonté. Il faudra reconnaître son autorité. Il faudra abandonner notre propre volonté pour faire celle du Seigneur. Et surtout, il faudra nous affectionner aux choses d'en haut et non à celles d'en bas sur la terre qui nous mènent inexorablement vers la déchéance spirituelle. Dieu a envoyé son Fils Jésus afin que nous soyons rendus capables de participer à sa nature qui est divine et sainte. C'est aussi pour cela que Dieu nous corrige. Il nous corrige pour notre propre intérêt, afin que nous soyons participants à sa nature. Notre Dieu bien-aimé est saint, et nous ne le dirons jamais assez. Sa sainteté et sa volonté est toujours conforme au bien et à la nature du bien. Sa sainteté triomphe toujours de ce qui est ténèbres. Elle triomphe toujours de ce qui est péché. Alors, dans Psaume chapitre 99, de versets 2 à 3, se dégage une observation. La voici. Il n'y a nulle imperfection en Dieu. Sa sainteté n'est ni statique, ni inerte. Au contraire, elle est active et semblable à une flamme, consumant le mal et le péché, frappant le pécheur récalcitrant et rebelle. Le péché, donc, ne pouvant aucunement bénéficier de l'impunité face à sa sainteté. Dans Exode 34, au verset 6 et 7, il y a une condition au pardon de Dieu. Et cette condition, c'est que c'est lui qui désire l'obtenir, le sollicite simplement. C'est plus que certaines conditions que le monde nous impose pour accéder à quelques avantages, aussi minimes soient-ils, qui, au demeurant, nous conduisent à la ruine. Dans Hébreu 10, on nous dit qu'il n'existe pas de sacrifice pour une personne sauvée qui choisit délibérément de désobéir à Dieu. Dieu nous demande simplement d'être saints et d'abandonner le mal. Tel est son appel aujourd'hui. Alors, bien-aimés, faisons attention au plaisir, car c'est souvent dans le plaisir que nous tombons dans le péché. Je ne veux pas dire ici que nous devons renoncer au plaisir, pas du tout. Ce que je veux, c'est que nous puissions être raisonnables dans notre façon d'agir et dans notre façon d'appréhender les choses de Dieu. Le nom de Dieu est redoutable. Il est incomparable. Jésus, dans son humanité, appela Dieu saint et apprit à ses disciples à reconnaître sa sainteté ou la sainteté du nom du Père, à le respecter et à le vénérer. Il nous faut donc nous séparer de tout ce qui est profane. Il nous faut donc purifier nos mains et nos cœurs, être consacrés à Dieu dans notre âme. Il nous faut donc être consacrés à Dieu dans notre esprit et dans notre corps. Ainsi, Dieu pourra nous accueillir dans sa demeure. De nos jours, la sainteté ne semble plus préoccuper les hommes. On sert Dieu par automatisme. On sert Dieu par habitude ou par obligation religieuse. La sainteté est soit renvoyée aux oubliettes, soit considérée comme quelque chose réservé à des spécialités de l'Ancien Testament ou à quelques héros de la foi. Et de nos jours d'ailleurs, la sainteté est considérée comme quelque chose réservé à des hommes et des femmes en mal de s'adapter à l'évolution de la société actuelle, que l'on appelle entre guillemets moderne. Ce faisant, la notion de sainteté s'atténue et fait une place belle au péché et à la compromission. Cependant, souvenons-nous, et la Bible nous le dit, que sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. La sanctification et son but, qui est la sainteté, nous concernent tous et sont l'affaire de chacun. L'homme, aujourd'hui, on le sait, il donne parfois l'apparence de sainteté pour améliorer son image. Et nous vivons d'ailleurs dans un monde où il y a vraiment un grand effort de l'homme, l'homme en général j'entends, pour donner une apparence acceptable aux yeux des prochains. Apparence qui peut procurer peut-être le bien-être, on le voit pour les hommes comme pour les femmes, ou plus. Il s'appuie sur cette apparence pour obtenir certains avantages, négligeant ainsi les valeurs éternelles et cachant une réalité qui est souvent décevante. Retenons bien, chers frères et sœurs, que l'apparence a une odeur de mensonge. Parce que on veut cacher ce qu'on est réellement. Et ça s'appelle de l'hypocrisie. C'est une marque d'orgueil. Car on ne veut pas reconnaître ce qu'on est. On ne veut pas reconnaître ce que Dieu a fait de nous. Mais, après tout, qu'avons-nous de plus que les autres? Ecclésiaste, ne nous dit-il pas que l'homme est conçu de la même façon quel qu'il soit? Écoutez bien, à l'origine de la conception de l'homme, il y a une cellule unique, microscopique, née de la fusion de deux cellules et contenant déjà à ce stade toutes les informations sur la personne en formation. Parmi ces informations, nous avons sa taille, nous avons la couleur de sa peau, nous avons la couleur de ses cheveux, nous avons ses tares, nous avons ses qualités, etc. Tout est compris dans cette minuscule cellule invisible à l'œil humain. Tous les hommes sont ainsi formés et le cycle de vie est identique pour tous. Le voici, nous commençons par la conception, la naissance, l'enfance, l'adolescence, jeune adulte, la maturité, la vieillesse, et vient enfin la mort. Il est possible que l'on meure prématurément par maladie ou par accident de façon inopinée. En somme, le cycle de vie est pareil pour tous et personne ne pourra le changer. Alors, pourquoi portons-nous des masques? Pourquoi cherchons-nous à nous faire passer pour ce que nous ne sommes pas? Pourquoi tant de suffisance? Pourquoi tant de méchanceté envers son prochain? Nous l'avons dit dans Psaume au chapitre 73, verset 22, et nous le répétons, « Celui qui veut se faire passer pour ce qui n'est pas, fait preuve d'une stupidité avérée. Quel avantage en tire-t-il? Est-ce de l'argent? Un certain positionnement dans la société? Peut-être. Mais en bonus de tous ces prétendus avantages, il s'accumule des charbons ardents sur sa tête et s'attire les jugements de Dieu. Aussi, celui ou celle qui opprime son frère, son prochain, sous quelque prétexte que ce soit, malheureusement connaît le même cycle de vie que le commun des mortels. Alors, moi je pense qu'il est pour nous important que nous puissions entrer à l'école de Job. Depuis quelques semaines, nous avons par le canal de notre frère Patrick, nous avons été enseignés de la manière dont Dieu s'est félicité de son serviteur Job, à qui Dieu considérait comme un homme droit, un homme fidèle, un homme sincère. Nous sommes donc appelés à entrer dans cette école. Nous avons besoin d'apprendre ce qu'est la droiture. Nous avons besoin d'apprendre ce qu'est la justice, le respect, le courage. Nous avons besoin d'apprendre ce qu'est l'amour de l'autre. Nous avons aussi besoin d'apprendre les valeurs morales et spirituelles, la crainte de Dieu. Bref, nous avons besoin de recevoir des instructions, des directives et d'être formés dans la vie, pour la vie, afin de vivre dans une société équilibrée. Dès que nous cessons d'apprendre, nous tombons dans l'anarchie. Pardon. Et nos enfants sont les premiers à en faire le frais, car ils grandissent sans le sens de la moralité et sans le modèle. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu regarde au cœur et non à l'apparence. L'Église, à travers les âges, a souffert de ce mal, à commencer par les disciples du Seigneur Jésus. Ces disciples-là, avant de recevoir le Saint-Esprit, ils avaient une apparence de fidélité, d'obéissance et de force. Mais en réalité, ils n'étaient que des lâches. Nous allons prendre quelques exemples. Thomas et Philippe, après tout le temps qu'ils ont passé avec Jésus, ne savaient pas qui il était réellement. Vous pouvez les trouver dans Jean au chapitre 14, verset 5. Pierre, malgré les déclarations spectaculaires, suivit son maître de loin à l'heure de l'épreuve et finit par le renier. Jean et Jacques, apparemment prêts à faire tomber le feu du ciel sur les Samaritains pour sauver l'honneur de leur maître, furent incapables de le soutenir dans la prière à Gethsémané. Que dire alors de Judas l'Iscariote? Tous, au moment de l'épreuve, abandonnèrent leur maître et s'enfuirent. Alors, bien-aimés, qu'importe l'image que nous affichons, tôt ou tard, devant l'épreuve, le masque finit toujours par tomber. Et pour dévoiler enfin ce que nous sommes réellement. C'est pour les disciples, bien évidemment, après la croix et la résurrection, après la victoire acquise pour toujours, que ces disciples-là ont affiché une autre réalité qui était différente, car ils furent, quand ils eurent reçu le Saint-Esprit, ils furent rendus forts et bouillants, et prêts à donner de leur vie pour le maître, et surtout prêts à remonter ou à surmonter, si vous voulez, les embûches de la médiocrité. L'apparence, qui est une forme de médiocrité, n'est pas une chose. L'apparence est une personne. Et voici ce que la Bible désigne cette personne. Il la désigne de plusieurs façons. Dans Matthieu chapitre 5, verset 13, il appelle le sel qui a perdu sa saveur. Dans 1 Corinthiens 13, 1, il appelle la cymbale qui retentit, c'est-à-dire qui fait de bruit pour rien. Dans Jude 12, il appelle des fontaines sans eau. Et dans Jacques, il appelle l'indécis, l'inconstant, l'irrésolu, l'adultère spirituel. Et dans Apocalypse 3, verset 17, il appelle la tiédeur de Laodicée. Cette personne qui a perdu la capacité d'influencer les autres n'obéit pas entièrement malgré les enseignements, tout ce qu'on lui dit. Il ne renonce pas entièrement aux choses mauvaises et refuse d'aller jusqu'au bout, trouvant toute forme d'excuse pour justifier ses actes. Cette personne infidèle se voue, se moi quand l'orgueil nous saisit. Et cet orgueil, c'est l'opposé de la sainteté, qui n'est autre chose que Dieu en moi, qui est, comme nous le disions, le début de la vie chrétienne. Alors, pour terminer, nous allons nous demander certainement de laisser tomber les masques que nous portons souvent, même si ce n'est pas beau à voir. Venons tels que nous sommes à la croix, car Jésus est mort pour changer ce moi. Et de cette manière, je pense que par l'espérance et la foi que nous avons en Dieu, nous allons cheminer dans la sanctification et un jour avoir l'espoir de vivre dans la demeure de notre Dieu. Voilà le message que j'avais à nous transmettre aujourd'hui et que nous puissions nous examiner, chers frères et sœurs, car nous savons que des fois, c'est nous-mêmes qui rendons la vie chrétienne très difficile. Mais je pense que si nous tenons tout simplement au principe de Dieu, si nous suivons tout simplement ce que la Bible veut nous enseigner, je pense que nous pouvons y parvenir, et par la foi et par l'espérance, comme on l'a dit aujourd'hui depuis ce matin, nous croyons que le jour nouveau viendra et les beaux jours viendront pour que nous puissions être cohéritiers avec Dieu et rester dans la gloire céleste. Que notre Seigneur nous bénisse. Amen.